Beurre FM, 18h-19h, Time Sport avec Bilal Nedman.
Bonsoir à tous et bienvenue sur Beurre FM. On est le vendredi 5 avril 2019, on cette veille de week-end. En route pour justement ce fameux week-end ou même dans les transports ou à la sortie du boulot. Vous écoutez Beurre FM et vous êtes dans Time Sport comme chaque jour des 18h à 19h. Avec vous, chers auditeurs de Beurre FM, on reste connectés tout au long de l'émission avec le 01 53 48 3000 et le hashtag Time Sport. Beurre FM vous fait gagner de nombreux livres avec Talon Édition. Au menu justement de cette émission, on verra les terrains de Ligue 1 avec Rudy Garcia du côté de la cité phocéenne. Aussi, il y aura au menu de cette émission la Coupe de France avec Valentin Rongier Nantes. On aura la page transfert, Benitez se renseigne sur la Ligue 1, le Bayern, le choc de ce week-end qui rencontrera le Borussia Dortmund et enfin la promenade des Anglais, on vous en dit pas plus. Go go Time Sport.
Time Sport.
Et ce soir, pour m'accompagner autour de la table, on aura Média Diadj, sans oublier Mamadou Lamine Mané. Bonsoir Mamadou.
Bonsoir Bilal, comment vas-tu?
Comment ça va? Tu vas bien? Oui, tu nous as pas ramené le soleil Mamadou. En plus, ça fait fort longtemps que je n'étais pas avec toi sur le plateau.
J'étais en grande discussion avec lui jusqu'au début de l'après-midi, puis il m'a faussé compagnie.
Tu as ce pouvoir toi Mamadou. Hein. Eh oui. Mamadou, un grand homme. Avec nous aussi, il y aura Brice Tailly, sans oublier Kamel Aïkera. Comment ça va, Kamel? Ça fait longtemps aussi que j'étais pas avec Kamel en plateau. Comment
oui,
ça va?
Ça va, Bilal, merci. Hein, ça va très bien. Heureux de revenir sur le plateau.
Et de fin connaisseur ce soir. Hein.
Je souhaite un bonsoir aux auditrices et aux éditeurs de Beurre FM.
Eh oui, toujours à l'écoute en ce vendredi soir, le 0153 48 3000. Un petit clin d'œil à la réalisation avec Hugo, notre réalisateur, et aussi en la personne de Yanis. Comment ça va, Hugo?
Ça va super, et toi?
Ouais, ça va très très bien, Hugo. Ce week-end, on a prévu quelque chose?
Ça va faire la fête ce week-end.
Ok. Nous, en tout cas, ça va faire la fête durant une heure. Vous restez bien connectés sur l'antenne de Beurre FM et c'est parti avec la Ligue 1.
Time Sport, le ras-le-bol.
Et oui, Rudy Garcia, Jacques-Henri Hérault et Andoni Zubizarreta, des cadres sous pression à l'Olympique de Marseille. L'entraîneur, le président et le directeur sportif symbolisent l'OM Champion Project, un projet qui pourrait se solder par un sacré raté en cas de non-qualification en Ligue des Champions. Ou est-ce peut-être un départ anticipé d'un certain Super Mario Balotelli? Mamadou, je te regarde.
Tu m'as pas fait
passe à l'aveugle.
Tu fais des passes décisives. Je pensais que tu la faisais à Kamel. Non, je reprends.
C'était pour toi.
Effectivement, énorme pression qui est posée sur les épaules de ce triptyque composé de Jacques-Henri Hérault, du coach Rudy Garcia et du directeur sportif Andoni Zubizarreta. Forcément, beaucoup d'ambition et arriver, pas à mi-parcours, je peux pas me permettre de dire mi-parcours, mais arriver à un point d'étape. C'est pas trop ce qu'on attendait. On a eu un super parcours l'année dernière.
L'OM est resté finaliste. Hein.
C'est ce que j'allais. Je t'en perds.
Finaliste, ouais.
Et l'OM a quand même été finaliste d'Europa League l'année dernière. C'est quand même un super parcours inattendu. Et donc en avance sur les prévisions. Mais à côté de ça, tu m'as parlé de Super Mario. Super Mario, il ne restera que si on peut lui proposer une galette derrière. Quand je parle de galette ou de carotte, savoir qu'un joueur de ce calibre-là. Il a signé pour une période très courte, justement, c'est pour jauger du projet marseillais. Il ne sera présent que s'il a la super carotte, par exemple, de la Ligue des Champions l'année prochaine. Moi, personnellement, je n'ai pas l'impression qu'il restera s'il n'y a pas cette Ligue des Champions. À moins qu'on lui promette ou qu'on lui emmène un super recrutement qui ferait qu'il pourrait se reprojeter sur une nouvelle dynamique. Mais la pression, elle est là, parce que la pression, elle est là au niveau du classement. Donc, s'il n'y a pas de classement, quel sera le recrutement l'année prochaine? Est-ce qu'on va faire un balayage pour enlever une partie des... Enfin, il y a beaucoup de doutes. On est dans une période d'incertitude. Et les résultats vont entraîner forcément beaucoup de changements ou pas. C'est le problème de stabilité qui va rester à Marseille.
Ouais, justement, qui portera le chapeau en cas de non-qualification probable en Ligue des Champions, Kamel?
Qui portera le chapeau, c'est Rudy Garcia. Pourquoi? Parce que Rudy Garcia a tous les pouvoirs, c'est lui qui a recruté. C'est lui qui a recruté tous les joueurs. Anthony Zubizarreta n'était soi-disant le directeur sportif, mais il a eu aucun pouvoir. Hein. Rudy Garcia a eu tous les pouvoirs.
On dit que Rudy Garcia masque.
Vers la sortie. Mais le problème, c'est ça. C'est que le problème, c'est que quand vous n'avez pas une cellule de recrutement et un directeur sportif, l'entraîneur, il est ciblé, puisque c'est lui le responsable. Et Rudy Garcia, en plus, Attention, hein, c'est pas que le recrutement des joueurs qu'il a fait, Rudy Garcia. C'est qu'il est aussi responsable de toute la politique sportive de Marseille. C'est lui qui a recruté tout ce qui est au centre de formation. Parce qu'il
met un certain frein
à tout ça. À c'est-à-dire
c'est les cadres de cette équipe marseillaise aussi. Voilà. On les voit plus.
Non, on les voit plus, mais c'est ses cadres à lui. Après ses cadres à lui qu'il a recruté.
Ouais.
Moi, je trouve qu'il a une mauvaise gestion dans son management parce qu'il cible trop les joueurs. Il les met trop au devant. Je veux dire, il les protège pas assez. C'est lui. Et puis, au-delà de tout ça, moi, je pense qu'il y a un moment donné, il faut avoir une obligation de résultat. L'OM, c'est le quatrième budget de la Ligue 1. C'est 150 millions d'euros.
C'est ça.
Donc, 150 millions d'euros, c'est beaucoup. C'est trois fois plus que Lille, trois fois plus que Saint-Etienne. Et actuellement, l'OM est cinquième à 48 points. Moi, je pense que c'est terminé, la Ligue des Champions. Il reste 8 journées. Il y a plus de...
Il y aura un nada.
C'est Lyon, c'est terminé.
Donc, la Ligue Europa.
Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que les joueurs, pour les faire partir, ils partiront pas. Parce qu'aucun club ne donnera les salaires que Marseille a donné à des Strootman, à des Payet. La seule valeur marchande, c'est Florian Thauvin. Parce que lui, il peut partir. Et encore, mais les joueurs, ils ont tellement, regardez, ils sont tellement bien payés qu'aucun club ne peut leur donner ce salaire. C'est impossible. Et en plus, compte tenu aussi de leur,
Ambition,
et même au niveau de ce qu'ils ont donné sur le terrain, c'est un fiasco total. Et ce fiasco, moi, c'est pas une question que j'ai quelque chose contre Rudy Garcia. Comme il a eu tous les pouvoirs, pour moi, il est le seul responsable. C'est tout.
Bon, maintenant, on poursuit avec toi avant de revenir à Marseille.
Je vais même poursuivre sur ce que l'a lancé de Kamel. Un des écueils du problème de Marseille, c'est ce problème de dichotomie, la séparation qu'il y a entre le pouvoir de l'entraîneur et le pouvoir du directeur sportif. Garcia, Kamel l'a soulevé. A empiété sur la partie de Zubizarreta. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un poste de directeur sportif qui est officieusement mené par Rudy Garcia.
Ouais, avec un peu le manager général, il fait.
Il fait le manager général.
Ouais, c'est ça, Garcia, manager général.
Il a court-circuité carrément l'emprise que pouvait avoir.
Et même en plus, c'est que le problème de Marseille, c'est s'ils doivent se séparer de Rudy Garcia, il faut qu'ils se séparent de tout son staff.
Exactement.
Et en même temps, il y a au moins une quinzaine ou vingtaine de personnes qu'il a mis en place au centre de formation, les éducateurs, et ça leur courturait deux fois plus.
Selon le quotidien régional, la Provence, le président de l'OM avait décidé de prolonger activement son entraîneur en octobre dernier, car il avait peur de la concurrence étrangère. Brice, l'incompétence d'Héro peut-elle être mise en cause dans la prolongation a priori hâtive de Rudy Garcia?
Moi j'ai une question, la prolongation est actée?
Ouais.
Oui, elle est actée.
Elle
est actée depuis octobre. La décision était prise en octobre, mais elle est actée.
Ça a été fait.
C'est problématique quand même. On a quand même quelqu'un qui va sûrement pas répondre aux objectifs du club. On parle quand même de l'OM Champions Project. Alors évidemment, ils ne seront pas champions, mais au moins la Champions League. Et c'est fichu. Enfin, je veux dire, là, sauf exploit.
Ouais, là, le Champions compliqué. Project, donc, c'est pas en cacahuète, là.
On parle quand même du club français, quand même le plus prestigieux. Donc, avant, il faut être sérieux. Je crois que là, il y a une décision hâtive.
Ouais. Mehdi, justement, avec Mehdi Hadjadj. Comment ça va, Mehdi?
Bonsoir, ça va?
Olympique de Marseille. Andoni Zubizarreta n'est-il considéré comme une portion congrue, si je peux me permettre, réduit à jouer les utilités quand il faut?
Pourtant, c'est quelqu'un.
Ouais, c'est quelqu'un, un grand monsieur.
C'est d'où il vient.
Football espagnol, classe mondiale.
Est-ce que justement, c'est pas acheter un nom avec Zubizarreta? Est-ce que c'est pas le nom qu'on a acheté en pensant avoir toute la caravane et la remorque qu'il
Mais ça le fait pas dans ce ménage à trois, et Mamad avait raison de le dire.
Forcément, bien sûr, le nom joue, bien sûr.
Oui,
la réputation, comme tout. C'est pas suffisant, bien sûr qu'il faut des résultats derrière. Mais il était quand même un gros poste au Barça. Derrière, il a fait.
Moi, si je peux me permettre.
Mais le problème, on lui a donné aucun pouvoir à Zubizarreta. C'est ça le problème, c'est la faute du président.
On connaît Marseille, on connaît le club.
On lui a donné
la faute. Qui détient vraiment les pouvoirs?
C'est Rudy Garcia, tous les pouvoirs sportifs. Non, c'est vrai, non. Tous les pouvoirs sportifs, c'est Rudy Garcia qui les a. Tous les pouvoirs. Non. Tous les pouvoirs sportifs, c'est lui qui les a. Il gère du centre de formation jusqu'à l'équipe première. Donc, à un moment donné, quand vous donnez tous les pouvoirs à quelqu'un, même si c'est pas logique. Et à un moment donné, lui-même devrait assumer ses responsabilités, dire à la fin de la saison, j'ai pas réalisé les projets avec tous les pouvoirs qu'on m'a donnés. Et là, comme je suis quelqu'un de bien, je pars. Et là, regardez à Lyon, Jean-Michel Aulas, Marseille. Il a pas fait de prolongation. Ouais.
Marseille, c'est un club à part.
Club à part, comme le Paris Saint-Germain. On parle souvent, Mehdi, de crise, de gouvernance au Paris Saint-Germain. Ouais, c'est assez pertinent, je l'avoue. Avec je sais pas, Mac d'organigramme clairement établi du côté du siège de Boulogne-Billancourt. Mehdi, que tu connais si bien, comment pourrait-on définir l'état de l'organigramme marseillais, Mamadou? Tant de choses à dire. On parle à chaque fois du Paris Saint-Germain. Faisons la comparaison aussi avec l'Olympique de Marseille.
On est ici à dire qu'effectivement, qu'il manque. Il y a un problème de gouvernance au PSG et c'est ce qui lui pose aujourd'hui des problèmes pour aller se projeter plus loin que le simple cadre du championnat, de la Coupe de la Ligue, de la Coupe de la Coupe de France. Il n'est pas calibré pour ça. Mais quand on voit l'organigramme Marseille aujourd'hui, je pense qu'à un moment donné, il faut pointer des responsabilités. Que Garcia, à la rigueur, on lui donne le titre de manager général. Mais à la rigueur, ça ne pose pas de problème. Sauf qu'il faut que les choses soient établies. On ne peut pas demander à Garcia. De mener, même si on lui donne officiellement que c'est officieux et qu'il le mène, et que derrière ça, il ne prenne pas ses responsabilités en se retranchant toujours derrière. C'est la faute des autres, c'est la faute du recrutement et autres, alors que c'est lui qui quasiment a tout dans ses mains, sportivement en tout cas.
Quand on parle d'organigramme, c'est simple. Un organigramme dans un club, normalement, c'est simple. Vous avez le coach de l'équipe première. Vous devez mettre un manager général. Pourquoi ? C'est pas pour la galerie dont on met un manager général. Un manager général, c'est comme dans un gouvernement, comme le gouvernement français. C'est le premier ministre. Ça sera celui qui sautera s'il y a un problème. Et c'est une manière de protéger votre entraîneur. C'est ça qui est bien. Ça veut dire que ça limite à chaque fois que l'entraîneur, si ça fonctionne pas, il est protégé parce que c'est pas lui qui a recruté. Il va donner son aval ou pas. Mais là, le dernier mot, c'est le manager général qui le donne. Et justement, en donnant tous les pouvoirs à un coach, que ça soit à Paris, à Marseille ou ailleurs, c'est complètement suicidaire. Alors, quand ça va pas, c'est suicidaire.
Je peux prendre l'effet inverse, Kamel. On est ici dans le championnat de France, mais en Angleterre, avant un manager général,
c'est pas le même état d'esprit, c'est pas la même histoire. Ne comparons pas ce qui est pas comparable.
Peu importe le modèle. Ce qui est important, il faut que ça marche.
On veut toujours copier les autres, alors qu'on n'arrive même pas à mettre en place notre propre.
C'est-à-dire que, imaginons qu'on donne les pleins pouvoirs à un homme et que ça marche.
Ouais.
Et que ça marche. On va pas s'imposer.
Ça marche jamais.
Eh ben,
dans le football, tu sais pourquoi ça marche pas ? Il y a trop d'intérêt. Parce qu'après, ce qui rentre en compte quand tu donnes tous les pouvoirs.
Alors tu vas me dire, c'est peut-être un exemple qui est.
Allez, on termine avec ça.
Ferguson a été un manager.
Ouais.
Tu vas me dire que c'est peut-être Ferguson.
Non, mais c'est particulier.
On le laisse terminer.
Mais tout est particulier.
Il a 86 ça s'est construit avec lui.
Tout est particulier à partir du moment où ça marche. Quand ça ne marche pas, on peut effectivement
le
faire.
Mais dans le football d'aujourd'hui. Entends ce que dit Kamel, c'est dans le football d'aujourd'hui. En fait.
Ferguson n'est
dans
pas
le football d'aujourd'hui, c'est pas possible. Non, mais Ferguson, il est arrivé en 86. Non, 86, 2013.
Là,
il a construit le club.
En fait, ce que je voulais juste te dire,
le Manchester moderne.
Peu importe le modèle. Peu importe le modèle. Laissez-moi finir. À
on
partir du moment où tu trouves un modèle qui fonctionne.
Ton modèle, Mam, c'est ton modèle qui va te faire réussir ou qui va te faire perdre. Mais ce qui a fait, regardez, le modèle qui a fait perdre Marseille, c'est Strootman et tous ces recrutements à
400, 500
millions de Marseille, ça ne marche pas.
Ouais. Et d'ailleurs, il y a pas
merci, messieurs.
Wenger l'a dit il n'y a pas très longtemps. Il y a trop de pognon dans le football pour tout faire peser sur une personne. Il a encore dit, il est à l'Olympique cette semaine.
C'est possible.
N'oublie pas que quand tu as tous les pouvoirs, tu es entraîneur, agent. Parce que lui, après, il va travailler avec ses propres agents qu'il connaît. Il y a tous ses problèmes. Mais oui, mais c'est ça.
Pascal Le Grand Frère,
surtout à Marseille.
Avec tous les problèmes qu'il y a avec la justice, l'argent et tout ça.
Bien sûr.
Tu sais, on fait souvent le focus sur Marseille en mettant en pointant les problèmes.
On va avoir un focus sur une autre,
mais
autre chose.
C'est le problème Marseille, on peut le retrouver ailleurs, on peut le dupliquer ailleurs. C'est Marseille pour Marseille.
Oui, mais il y a aucun.
Il n'y a pas unique.
Ça fait jaser.
C'est clair.
Bien sûr. Et c'est le buzz du moment. Le football d'aujourd'hui. Bref, je reviens à toi, Daniel Bravo, de chez nos confrères de beIN Sports. Oui. Justement, dans la tourmente après les propos tenus par son commentateur, sixième but, je cite, et cinq passes décisives, c'est quand même pas mal pour un noir. À lâcher. Notre confrère Daniel Bravo lors du match de Ligue 1 entre Strasbourg et Reims. La chaîne Qatari a réagi une heure après la fin de la rencontre en publiant un communiqué sur les réseaux sociaux. beIN Sports et son consultant s'excusent pour les propos tenus lors du match Strasbourg-Reims qui peuvent être considérés comme choquants et qui vont à l'encontre des valeurs prônées par la chaîne de sport et sa rédaction. Comment analysez-vous cette nouvelle polémique, Kamel?
Moi, je suis outré, sincèrement. Je suis outré, pas par les propos de Daniel Bravo, mais par la polémique. Parce qu'on ne peut pas... Daniel Bravo, c'est vrai qu'il a eu une parole malheureuse. Mais on ne peut pas s'acharner sur un homme qui a...
Et super sympa, Daniel Bravo.
Non, mais il n'est pas raciste.
Je
suis d'accord. Il prône pas une idéologie raciste. Il prône pas. C'est vrai qu'il a bégayé. Excusez-moi le terme. C'est inadmissible. Mais s'acharner comme lui, alors qu'il y a tant de personnes en France qui prônent des idéologies racistes, etc. Et on les laisse faire. Ils sont sur les plateaux 24 heures sur 24. Exemple, Zemmour, Finkielkraut, eux, ils sont dangereux. Arrêtons de choisir les faux ennemis. Il a fait une erreur, il s'en est excusé. Ça peut nous arriver à tous de fourcher. Le principal, c'est les actes. Et je pense que Daniel Bravo n'a rien à prouver sur le racisme ou sur l'antiracisme. C'est quelqu'un, tous les footballeurs qui l'ont côtoyé vous diront qu'il a même pas à se défendre. Il a même pas à se défendre parce que ses actes et sa carrière ont montré que c'était quelqu'un d'irréprochable. Maintenant, attaquer d'autres personnes.
Alors Brice,
attaquer les vrais ennemis du roi du les vrais ennemis de la xénophobie, les ficales croates, les Zemmour et tous ceux qui passent à la télé et les Ruquier qui font en sorte que ces gens passent à la télé.
Une belle personne, Daniel, bravo. Brice, réaction justement sur ce buzz.
Je comprends ce que tu veux dire, Kamel, intellectuellement sur le fait entre les actes et ce que veut dire la personne. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est que pense, dans le fond, Daniel Bravo. Parce que, en fait, je me dis comment ta langue fourche et t'amène à dire une chose pareille. En fait, moi, ce qui m'a un peu dérangé, je tiens quand même à préciser à l'antenne, voilà, là, c'est une personne noire qui parle.
Tu es noir, Brice?
Oui, je suis noir. Mais français avant tout. Non, mais ce qui m'interpelle, en fait, c'est le fond, en fait, c'est la phrase. Ce que ça en dit derrière, vous vous souvenez qu'il y avait la polémique de Sagnol il y a quelques années. Sagnol qui nous explique
Sagnol, sur le joueur.
Creux, un joueur africain, il n'a pas tactiquement c'est un peu compliqué, il est athlétique et tout ça.
Il est fort,
donc en fait,
pas de cerveau.
Ce qui m'interpelle quand même, c'est que la phrase de Bravo lui dit que c'est un lapsus. Ok, pourquoi pas, mais dans le fond, ça nous rappelle un peu ces choses-là en fait. Ce petit discours de le joueur noir, il est athlétique, il est costaud, il court vite, mais quand il s'agit de faire un geste un peu technique ou tactiquement d'être un peu intelligent, il y a toujours un peu problème. Donc moi j'aimerais juste que, en fait, Bravo, s'il a fait un lapsus, qu'il nous dise derrière qu'est-ce qu'il voulait dire. Parce que c'est facile de dire, j'ai fait un lapsus, mais qu'est-ce que tu veux dire? Moi, je peux très bien. En fait, généralement, les lapsus, on dit souvent, c'est révélateur. Qu'est-ce qu'il y a dans le fond? Non, mais qui nous disent ça? Après, les actes, c'est une chose. On connaît plein de personnes qui, en fait, sont très gentilles et vont me dire, ah, mais toi, t'es une noire de service et je t'aime bien. Voilà. Donc,
non, je parlais de politique.
Je ne l'accuse pas, mais je veux juste savoir.
Allez, réaction de Mamadou, j'aimerais la voir.
Mon avis, il a évolué. Parce que j'étais sur le même tempo que Kamel hier. D'ailleurs, on en a discuté pour pas vous le cacher. On a eu l'occasion de l'échanger. Et par la suite, effectivement, je suis venu, et c'est pas parce que Brice, je ne veux pas le paraphraser, je dis finalement, Daniel Bravo, moi personnellement, je ne pense pas, et vraiment du fond du cœur, c'est un joueur que j'ai apprécié. Mais je pense pas que intellectuellement ce soit quelqu'un qu'on peut traiter de raciste. Mais pourquoi, avec tant d'expérience et avec tant de connaissances et avec un milieu qui est assez particulier aujourd'hui, comment il a pu lâcher cette phrase à ce moment-là aujourd'hui? Il aurait pu dire autre chose. Ça, il y a des phrases de vestiaire. Ici, on en dit des phrases de vestiaire. On a tous été dans les vestiaires et on sait quoi dire. Mais par contre,
merci,
à un moment donné, Mamad, je sais pas pourquoi il a lâché aujourd'hui à ce moment-là.
Vous restez avec nous avec le 0153483000 sur Beurre FM.
Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 18h-19h, Time Sport avec Bilal Nedman.
Et oui, de retour sur l'antenne de Beurre FM, 18h-19h, c'est Time Sport avec le hashtag du même nom sur la twittosphère, le 01-53-48-3000. Des petites dédicaces à faire, on nous écoute depuis Montpellier avec Soso, sans oublier Sanson du côté de Martigues. Il y a aussi Lumna du côté de Paris qui nous écoute. Et oui, il y a aussi le petit frère Amedi Adjadj qui m'accompagne durant cette émission. Kamel Aïd Kera, sans oublier Brice Taï et Mamadou Lamine Mané, notre rédacteur en chef de cette émission. Un petit clin d'œil aussi à Alex Seban qui était là hier et qu'on retrouvera la semaine prochaine. En tout cas, on a parlé de Daniel Bravo, du buzz et de l'Olympique de Marseille aussi, et de ses cadres, notamment Rudy Garcia, sans oublier Zubizarreta ou encore Héro, place cette fois-ci à la Coupe de France.
Time Sport.
Eh oui, Coupe de France oblige, Valentin Rongier du FC Nantes maintient sa version. Le capitaine des Canaries, Valentin Rongier, a maintenu sa version ce jeudi après avoir créé la polémique en faisant part d'une conversation qu'il avait eue avec François Le Texier lors de la demi-finale de Coupe de France contre le Paris Saint-Germain. On le rappelle, le score 3-0 pour le PSG et les hommes de Thomas Tuchel. Mercredi, après la demi-finale perdue contre le Paris Saint-Germain, Rongier a affirmé avoir eu la conversation suivante avec l'arbitre. Il me dit, pour moi, Thiago Silva n'a pas l'intention de faire fausse. Je lui ai dit, mais si c'est pour Paris, vous sifflez. Il me dit, monsieur Rongier, vous êtes intelligent, vous savez bien que les sanctions n'ont pas les mêmes conséquences quand un arbitre te dit ça. Aïe, 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 comment interprétez-vous les échanges entre Valentin Rongier du FC Nantes et François Le Texier, l'arbitre? Messieurs, ça fait en parler, Brice.
Moi, je pense qu'il s'agit, pardon, d'un énorme malentendu. En fait, j'ai écouté Gary Bian, Pascal Gary Bian.
Ancien arbitre international, Gary Bian.
J'ai expliqué qu'en fait, parce que donc il était en lien avec le Texier, et le Texier donc lui dit qu'apparemment Rongier aurait dit, si l'attaquant fait faute, qu'est-ce qui se passe? Donc en fait, il y a c'est un problème de sémantique presque. L'autre côté, ça veut pas dire le club, ça veut dire l'attaquant. Et évidemment, il y a pas les mêmes sanctions. Une faute à 90 mètres de son camp et un penalty, ça n'a rien à voir. Je pense qu'il y a un malentendu.
Pas faux, si tu me prends comme ça.
Comment?
Pas faux.
Moi, je ne peux pas croire une seconde que le Texier va. Alors, imaginons, partons du principe hein, que le Texier se fait acheter par Paris. Je pense que c'est fou, hein, mais vous croyez vraiment qu'il va faire une allusion pareille à Rongier en train de lui dire « Mais vous vous rendez compte, ça va pas avoir les mêmes conséquences ». Non, je crois que ça n'a rien à voir.
Ouais. Ouais, on t'écoute, Kamel. Le président, Kamel.
Alors moi, je pense que on peut placer, je suis d'accord à ce que tu dis, Brice, c'est une façon de penser, mais je pense, moi, j'ai regardé le match, c'était assez compliqué, hein, parce que maintenant, avec le VAR, la VAR est encore revenue, mais ça, elle n'a pas réglé les problèmes, elle en a accentué. Mais je pense que l'arbitre, inconsciemment, et je pense que tous les arbitres qui vont arbitrer PSG maintenant, je pense que par rapport aux décisions liées à la VAR, ils vont avoir cette jurisprudence de Manchester United. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas vouloir enterrer le PSG. Je pense qu'ils se disent dans la tête indirectement, les arbitres, bon, le PSG, c'est quand même le club phare du championnat français. Ils ont été traumatisés parce que ça a été un traumatisme par rapport au pénalty sur la VAR sur Kimpembe. Alors que même tout le monde, on est tous d'accord à dire qu'on soit supporter de Marseille ou pas. Moi, le premier, qu'il n'y avait pas pénalty. Mais je pense que.
Ça peut siffler.
Ça peut siffler, mais bon, oh là là. Donc, on va pas relancer. Maintenant, on va faire appel à tous les joueurs. On va, si possible, voilà. Embaucher des joueurs qui n'ont pas de bras. Bref. Donc, moi, je pense qu'il était dans cette logique-là de se dire peut-être qu'on ne va pas enfoncer le PSG. Et donc, c'est vrai qu'il y a certaines décisions des arbitres maintenant vis-à-vis de la VAR concernant le PSG qui peuvent prêter à confusion, même dans l'esprit des arbitres. Je pense, après, oui, je ne pense pas qu'un arbitre, il peut être aussi bête de dire ça et de dire aux joueurs, oui, voilà, c'est parce que je vais avantager l'équipe adverse, ce n'est pas la tienne, que ce soit PSG ou une autre équipe. Je ne pense pas. Mais je pense qu'ils ont quand même, un tant soit peu, au fond de leur esprit, cette jurisprudence Paris Saint-Germain.
Mendy.
Je ne pense pas que ce soit une question de jurisprudence. Non, je ne pense pas.
La Coupe de France.
Clairement,
non, PSG.
Si siffle faute contre le défenseur, c'est un pénalty. Si c'est contre l'attaquant, c'est un. Qu'un coup franc. Et c'est vrai que si c'est litigieux, qu'il n'a pas bien vu le truc, c'est difficile de siffler dans ces cas-là. Et il a dit son ressenti simple quand le joueur est venu lui parler. Il aurait très bien pu lui dire, écoutez, c'est moi l'arbitre et voilà, c'est comme ça. Sauf que là, bon, il a argumenté un peu, ce qui est en même temps honorable
de sa
part.
Hein, finalement, voilà,
c'est pas
de la pédagogie.
C'est bien d'être un peu pédagogue. Maintenant, ça a été mal reçu, forcément, vu que c'est pas à son avantage. Mais maintenant, on va pas faire toute une polémique sur un truc pareil. Il y a pas photo de toute façon sur ce match. On va pas.
Dans le fond, Nantes n'a rien montré.
Au final, Nantes, PSG, voilà, je pense qu'il y a pas de discussion possible.
Mamadou, justement, le doute.
Le doute pour moi est très vite dissipé parce que avec tous les moyens technologiques qu'on a, enfin l'arbitre est quand même très malvenu aujourd'hui. Je parle pas de la VAR, mais de savoir que on décrypte un petit peu tout, on lit sur les lèvres, on devine certaines choses. Soit il est très très culotté de se permettre de se dire comme ça, grosso modo, ici je fais un peu ce que je veux, puis comme un peu il y a la pression du PSG, je vais siffler en leur faveur. Il est costaud. Hein. Si c'est ça, il est très, 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 très costaud. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a un problème d'interprétation et qu'on était plus sur, effectivement, si je siffle dans l'autre sens ou je siffle à une autre distance, un peu ce que Brice a, la démonstration qu'a donné Brice. Voilà. Alors, après, le contexte est particulier. C'est vrai. Est-ce que les arbitres ont un peu plus la pression parce que Paris a aussi été malheureux sur ce type de décision récemment? Après, c'est un peu inconscient.
Même
et puis...
sur ce match, il y a eu beaucoup de problèmes avec la VAR.
Oui,
quand
non,
même,
c'est vrai.
Vu le match, il y a eu de gros, gros problèmes d'interprétation.
Il y a eu
un concentré d'erreurs au niveau de la VAR. Donc, il y a quand même, même la VAR.
Et je trouve même que les Nantais ont été très fair-play.
Oui, très fair-play.
Très fair-play parce que d'habitude, on voit des équipes qui montent au credo. Ah là là, ça faute à cause de l'arbitre. Et eux, Ali Ozic même l'a dit à demi-mot. Et pour le coup, les Nantais n'ont pas mis l'accent sur ces problèmes d'arbitrage.
Allez, on prend le chemin d'un autre championnat pour parler avec Benitez.
Time Sport, la victoire.
Pour parler de Benitez, plus précisément, qui se renseigne sur la Ligue des Champions à 58 ans. L'Espagnol Rafael Benitez a des envies d'exotisme. Le technicien, justement, est en fin de contrat avec Newcastle en Première Ligue. L'occasion étant trop belle pour ne pas se laisser tenter par un nouveau championnat du Big Five. Selon nos confrères de l'équipe, le coach des Magpies a mandaté une société d'agents lyonnaise pour le représenter jusqu'au 1er septembre. Jusqu'à cette date, Score Agency est chargé de soumettre à l'ancien technicien des Liverpool, des Reds, Chelsea ou Naples, les différentes offres dont il ferait l'objet en France. Quelle est cette nouvelle tendance de voir, justement, messieurs, ces coachs de Ronan Mourinho, Benitez, venir sonder notre Ligue 1 Conforama, peu réputée par son prestige en comparaison au Barclays Premier League ou même à la Liga ou encore la Bundesliga. On écoute Kamel, le président.
Je pense que ils ont fait le tour des championnats comme Mourinho. Mourinho,
Benitez, ouais, nouvelle aventure.
Fait, malheureusement, ils ont fait le tour des championnats.
Mourinho, on dirait qu'il n'arrive pas à s'incruster.
Il n'arrive pas, mais bah oui, Mourinho.
Chez nous, voilà. C'est grave quand même.
Il reste que le championnat allemand et le championnat allemand, bon, n'en veut pas parce que c'est très rigoureux et les coachs en Allemagne, ils n'ont pas tous les pouvoirs et c'est ce que voudrait Mourinho. Mais moi, je pense que voilà, c'est des coachs. Et à un moment donné, ils ont fait le tour. Et en Angleterre, je pense que voilà, les présidents de clubs veulent renouveler aussi leurs entraîneurs. Donc, à un moment donné, il y en a marre. Benitez, il a fait 3-4 équipes en Angleterre, l'Italie. Bon, maintenant, ils cherchent la France et ils viennent un nouveau terrain à explorer. Mais ce qui est bien en plus, maintenant,
c'est Star Tour.
Maintenant, c'est devenu. Il y a des clubs qui font du business sur les joueurs. Et ben maintenant, il y a des entraîneurs qui font du business sur eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils vont dans des championnats, ils signent 3 ans, ils disent peu importe si ça marche, au bout de la première année, même si ça marche pas, je me fais virer et je touche le pactole. C'est maintenant la nouvelle mode. Ouais. La nouvelle mode. C'est la nouvelle mode des entraîneurs. Maintenant, ils partent avec 25-30 millions d'euros. Ils ont touché le pactole, ils ont travaillé qu'un an. Et maintenant, c'est ça, ils vont chercher des clubs pour ça, je pense.
Mais c'est ça, c'est dingue, toi.
Qu'on manque d'entraîneur.
Ouais.
Parce que clairement, un entraîneur, si tu t'es élu entraîneur d'un club, ok, t'es mis en place, que tu fais clairement des mauvais. Tu as un mauvais bilan, un mauvais résultat. On te licencie. Et toi, derrière, tu retrouves aussitôt. Car ton nom est clinquant. Eh, hey, stop, faut arrêter. Il y a plein d'entraîneurs de talent qui n'ont pas forcément de nom. Dans le monde du football.
C'est pour me sortir du prêt, Antonetti.
Écoute,
je préfère Mourinho.
On renouvelle, parce que Yacine va nous en vouloir.
Avant qu'il gagne cette Champions League.
Il n'était pas du prêt, Antonetti. Il a gagné l'Europa League avant.
Mais à un moment de. Voilà, il a gagné l'Europa League avant. Mais avant qu'il gagne cette Europa League, est-ce que toi, tu connaissais Mourinho?
Bah, évidemment.
Est-ce que le reste de l'Europe connaissait Mourinho? Avant, même au moment où il a gagné l'Europa League.
Non, parce que finalement. Le mec a quand même été adjoint de Van Gaal au Barça, il a fait quand même des choses. Il a quand même
été adjoint. Mais il y a beaucoup de gars qui ont été adjoints.
Il n'y a pas grand monde en France.
L'adjoint de Chelsea, comment s'appelait-il? Di Matteo
qui a gagné la Ligue des Champions,
la première.
Incomparable, selon
Brice. On connaît les entraîneurs qui ont une philosophie de foot très importante basée sur la technique, qui ont entraîné des clubs mais dans des contrées lointaines, comme notre cher ami Luchesco qui est parti à Shakhtar mais pendant 10 piges qui pratique un football mais fabuleux.
Attention Brice, c'est un grand voyageur.
C'est quelqu'un.
Ah non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi.
Son fils est lui-même entraîneur aussi. Non, mais à un moment
je vais rebondir sur ce que je te disais.
C'est une question de philosophie, c'est pas du naming à chaque fois.
Pour un président, vaut mieux par rapport au budget, par rapport à sa politique, vaut mieux se tromper en embauchant un nom de renom à Benitez qu'en embauchant un jeune premier.
Allez,
ça sera moins grave.
On écoute Bray, s'il vous plaît.
Plusieurs choses.
On t'écoute sur la question.
Moi, je n'arrive pas à souscrire à la thèse de maintenant les entraîneurs qui font un peu du biz, machin.
En tout cas, selon Olivier G, il aimerait Benitez à Sochaux.
Ça marche en Angleterre.
Et en France, Monaco demande à Thierry Henry.
Thierry Henry, il prend le challenge et ça a échoué, malheureusement.
Thierry Henry, il est pas pour ce poste.
Plusieurs choses. C'est déjà une très bonne nouvelle pour notre Ligue 1 Conforama qui, c'est pas la ligue la plus prestigieuse. On est soi-disant la 5e ligue en Europe. Ça reste encore à prouver. C'est une très bonne chose. On parle de Benitez, on parle de Mourinho. C'est très bien. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a 15 ans pile, ces deux mecs-là ont fait gagner les Coupes d'Europe. Ils gagnaient l'Europa League et gagner la Ligue des Champions.
Il y a 15 piges.
Non, mais c'est voilà, justement. C'est là où je voulais en venir. Tout à l'heure, Kamel disait, ils ont fait le tour d'Europe. Mais surtout, en fait, ils sont dans la loose en ce moment. Enfin, je veux dire, Mourinho, il a réussi depuis quand même quelques temps. Notre ami Benitez, il est à Newcastle. Il se morfond dans le nord de l'Angleterre où il fait.
Il pleut.
Oh, c'est sympa, Newcastle.
Il pleut. Oui, non, mais c'est sympa quand Sam James Park, quand tu vois des buts, mais quand tu joues le maintien en première ligue, voilà, c'est pourri.
On vous embrasse.
Moi, je dis que c'est juste une bonne nouvelle parce que c'est des noms. Voilà, ça fait un peu parler. Maintenant, concrètement, qui peut l'acheter? Qui peut acheter Mourinho? Enfin, qui peut prendre? Voilà.
Marseille, Lyon, Paris, Monaco.
T'enlèves Paris-Monaco.
Monaco,
Jardim. Paris, à Troyes.
C'est sévère, là.
Ils vont pas l'acheter. Ils vont garder Jardim. Donc, t'as
Marseille-Lyon.
Donc, t'as Marseille-Lyon.
Peut-être le GC Nice.
Apparemment, c'est compliqué à Marseille. Et Lyon, Genesio, il a l'air quand même sur un siège éjectable. Donc, à regarder de très près.
Ouais. Justement. Alors regardez, on revient. Alors on est parti de la Ligue 1. On a eu nos voisins anglais en la personne de Raphaël Benitez. On y va du côté de l'Allemagne.
Time Sport. Le duel. Le duel.
Eh oui, je regarde un peu les consultants, mais je ne le vois pas. C'est notre Bundesliga boy, mais il nous écoute. C'est Nassim Bourras. On va parler de ce Bayern de Munich alléchant contre le Borussia Dortmund avant de défier le Borussia premier avec 63 points. On tient à le rappeler ce samedi. Donc demain, pour un choc importantissime en vue du titre de la Bundesliga, l'entraîneur bavarois, second avec 61 points. Nico Kovac n'a pas joué sur la corde sensible avec ses joueurs. Dans une interview à Sport Bild, le Croate s'est montré très optimiste et voit déjà ses troupes remporter le championnat. Les propos de justement Nico Kovac ont-ils plus pour effet de piquer ses joueurs, ou pensez-vous comme lui que le Bayern ne soit au-dessus de son adversaire, Mamadou?
Mais je pense, moi personnellement, et pourtant c'était un sacré joueur, hein, quand je me souviens de lui, il jouait même à un moment donné avec son frangin au Bayern. C'est un ça. Joueur très très dur, dur au mal. Mais je pense qu'il a un peu la trouille. Quand je dis qu'il a un peu la trouille, je vais tempérer. C'est-à-dire que là, il est en train effectivement de jouer sur l'effet, la corde sensible, la corde psychologique. Il essaie d'aller piquer ses joueurs parce que ça fait longtemps que le Bayern n'a pas été bousculé comme ça sur une durée. On arrive carrément, on est à la 26e journée. Je crois qu'il reste 27. Encore 27, ouais, 27e. Il reste encore 7 journées. Et ça fait longtemps que le Bayern n'a pas été bousculé comme ça dans ses derniers retranchements, poussé dans ses derniers retranchements. Le Bayern est arrivé à cette époque de l'année.
Fin de cycle. On avait parlé déjà de cela.
C'est bien pour ça que je pense que quand je parle de trouille, quand je parle de trouille, c'est pas une trouille physique. C'est plus que là, il sent qu'il est sur une fin de cycle et il n'est pas sur une domination psychologique comme le Bayern a pu l'être ces dernières années. Donc là, il essaie de jouer sur la corde. Les gars, je vais vous piquer. Nous, quoi qu'il arrive, on est meilleurs qu'eux. Mais dans les faits, Dortmund a montré qu'ils tiennent la route.
Ah, c'est costaud.
C'est costaud. Et
ils peuvent les taper, Mamad.
Ah, je pense que je suis même persuadé. Je pense que tu nous demanderas peut-être notre pronostic à la fin de l'émission. Moi, je suis persuadé que Dortmund peut gagner à l'Allianz Arena. Je pense que Dortmund peut gagner à l'Allianz Arena. Et que ce sentiment psychologique que le Bayern a toujours eu, bah, c'est passé parce qu'il aurait dû l'avoir plus tôt dans la saison. Mais là, c'est Dortmund, t'as rien à perdre.
C'est plus la même chose. Ah non, avant, on donnait facilement le Bayern, et aujourd'hui, non.
6, 7, 8 journées de la fin, situation. Le Bayern était déjà champion. Ouais. Là, ils se sont fait bousculer. On est dans une fin de cycle. On a déjà parlé des joueurs.
On change, et ça change la Bundesliga.
Juste pour finir, pour faire parler à mes collègues, c'est Ulionès ou Rominegue qui avait dit qu'on allait mettre 500 millions sur la table. On n'a jamais entendu parler le Bayern de sortir la carrière. Au contraire, d'habitude, ils fustigent des autres clubs en leur disant vous mettez trop d'argent. Et là, ça veut dire que l'effectif va être carrément changé. Robben, Ribéry, il va y avoir du changement.
Bressay, avant la pause, avant de revenir justement sur le cas du Bayern de Munich.
En fait, Kovac, c'est un déni de réalité parce que ça fait. Il nous disait déjà à la trêve que. Ils allaient rattraper le Dortmund assez facilement. Ils sont encore 2 points derrière. Exact. Là, ils sont à la pression venir. Voilà, ça fait 6 titres consécutifs. 6 titres, pardon. Il y a un peu d'usure du côté du Bayern. On sait que Ribéry, Robben, ça vieillit. On a vu là qu'ils avaient investi derrière avec Pavard et Hernandez. Voilà, ils savent qu'il faut se renouveler. Ça sent comme la fin de cycle. Moi, je mettrai mon petit billet sur Dortmund qui va gagner là-bas.
Ouais, et toi, pour toi, c'est Dortmund.
Je pense qu'ils vont aller gagner là-bas.
Ouais. Ouais, facilement.
Mais je sens bien en fait Favre remonter ses joueurs. Tu sais, typiquement, ces genres de propos, tu vois, ça rappelle un peu, vous vous souvenez à l'époque, dans les années 90, quand Tapie mettait la une de l'équipe, quand Arthur George disait ils vont nous marcher dessus.
Ouais.
Tu mets ça dans le vestiaire.
C'était Gino qui avait dit ça, on va marcher dessus.
Ça va les motiver.
Ouais. Justement, vous restez donc bien à l'écoute de cette émission qui est TAM Sport, 18h, 19h, le 0153483000. On vous fait remporter de magnifiques livres, avec notamment le livre de Georges Eddy, le grand monsieur du basketball mondial, aux éditions Talon Sport. Pour cela, rien de plus simple, vous allez sur la Twittosphère, sur le réseau Twitter, et vous likez le compte de TAM Sport. Après, on reviendra, on abordera encore la page Bayern de Munich, Borussia Dortmund. À de suite.
Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 18h, 19h. Time Sport avec Bilal Nedman.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, 18h45, toujours dans Tam Sport, 18h, 19h, le hashtag Tam Sport sur la Twittosphère. On vous fait remporter, je le rappelle encore, des magnifiques livres, notamment le livre nouveau de Talon Sport de Georges Eddy. le fin connaisseur du basketball mondial. Nous, toujours ensemble avec vos consultants, Mamadou Lamine Mané, Mehdi Hadjadj, sans oublier Brice Taï et Kamel Haïd Kera. Justement, on revient sur le fameux grand match de ce week-end, le Bayern qui accueille le Borussia Dortmund en Bundesliga. Justement, tant de choses à dire. On a vu peut-être les propos d'un certain Kovac. Et aujourd'hui, on espère justement un sursaut d'orgueil de ces Bavarois, Kamel.
Oui, mais sur les propos du coach Kovac, je crois même pas que lui les pense, parce que on dit qu'il a motivé soi-disant ses joueurs, mais le premier qui a parlé, c'est le président Ulyonès. Ulyonès, il a dit dans Sport Bill, il n'y a pas d'alternative pour moi, nous devons gagner. Donc il a mis la pression sur son entraîneur, et l'entraîneur ne pouvait pas dire autre chose à ses joueurs que nous devons gagner. Donc voilà, même s'il y croit pas, parce que moi je pense que le Dortmund, moi j'ai vu beaucoup de matchs de Dortmund et de Bayern. Dortmund, quand ils sont dans une bonne période, et même là ils apportent un jeu plaisant. Moi je pense que ça va être compliqué pour le Bayern, mais le coach Kovac est sûr de ne pas être là l'année prochaine, parce que là le Bayern va renouveler les trois quarts de son effectif, et je pense qu'ils vont renouveler les trois quarts de l'effectif avec un nouveau coach. Donc il est là, et puis les propos qu'il a dit, il a plus rebondi sur les propos de son président. Il y a rien d'extraordinaire.
Il va quand même plus loin, parce que lui il dit alors, nous allons gagner.
Oui, mais ça c'est voilà. pour se donner un peu de courage, lui il voit déjà
parce que concrètement le Bayern gagne, ils reprennent la tête et ils restent derrière 6 journées. Donc lui en fait, il se voit déjà sur la dynamique.
Bah c'est normal, 3 points de différence.
Et il y a 2 points de différence.
2.22.
Il y a 2 points,
Dortmund ils ont 63 et Bayern 61.
Et le Bayern en plus a un meilleur goal average, ils ont 5 buts
sachant que le Bayern marque plus de buts que Dortmund, encaisse moins de buts que Dortmund. Ok, mais Dortmund, ils possèdent quand même un bel effectif.
Ah, mais moi, je te le redis.
Des bons résultats,
je te le redis.
Des bons résultats, même à l'extérieur, ne sont pas mauvais.
On me le ressortira en cas de défaite de Dortmund, mais moi, je pense que Dortmund va aller gagner là-bas.
J'ai dit la même chose.
Voilà, je pense que Dortmund va gagner là-bas.
Il faut se mettre à la place aussi de l'entraîneur bavarois qui normalement, il sent que, voilà, ça sent un peu le.
Il est en train de les piquer, là.
Voilà, il sait qu'il va certainement céder sa place, donc indirectement, il a quoi à perdre en disant oui.
C'est logique. Il est obligé d'encourager. Moi, son président a fait la même déclaration que lui, donc il ne peut pas dire le contraire de ce que dit son président.
Mais ça risque de se solder par un match nul.
Ah, toi, t'es match nul.
Moi, je suis plutôt pour le match. Je suis pas pour, mais je sens que ça va finir en match nul.
Par contre, le problème, c'est si Kovac part, enfin qui le remplace.
Le Bayern, ils n'ont jamais eu de problème.
Vous savez quoi, c'est marrant, parce que là, il y a pas très longtemps, il y a Mourinho qui s'est quand même positionné jamais entraîné en Allemagne. Bon, après Mourinho au Bayern, franchement, je pense pas que ça soit
pas
la culture, c'est pas la culture
football allemande. C'est
ils vont rien comprendre.
Attention, si je peux me permettre, messieurs, Mourinho, là, quand il a terminé, qui s'est fait virer de Manchester United, d'habitude quand il se faisait virer, son téléphone devait sonner toutes les 5 minutes. Là, je pense qu'il est dans une problématique, parce qu'il a donné une interview à RMC Sport, il est dans une problématique où son téléphone ne sonne plus. Et si on lui propose le Bayern et on lui dit au Bayern, ce qui va être normal, ça sera comme ça, pas autrement, je pense qu'il viendra au Bayern.
Mais le Bayern ne pensera même pas à lui, en fait, c'est ça le truc.
Alors justement,
le Bayern ne pensera pas à lui.
Oui, une victoire du Borussia de Lucien Favre, lui assurerait-il le titre de manière assurée avec 5 points d'avance à l'issue de la rencontre et à 6 journées de la fin, Brice?
C'est une très 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 belle équipe. Enfin, quand tu vois les joueurs qu'il y a, et d'ailleurs que de regrets pour Paris, pour un mec comme Weigl ou même Witzel.
Il est toujours dans les.
On a peut-être pu l'avoir avant. Et puis bon, c'est encore un autre sujet. Mais vraiment, c'est ce qu'on appelle une équipe frisson, avec des joueurs avec un QI football extraordinaire. Et puis deux Français aussi. Il y a Zagadou et Diallo. Vraiment.
Tout ça, bravo. Chapeauté par Lucien Favre.
Favre aussi, qui est un super coach.
Favre, c'est
extraordinaire. C'est extraordinaire.
Pour Kamel, magnifique. Cet entraîneur qui a le plus la pression, selon vous, à 24 heures de ce choc, justement.
Le Bayern,
clairement le Bayern.
Je pense pourquoi c'est le Bayern, et encore plus avec les propos de Kovac. Ils ont encore plus la pression. Voilà, il a mis encore plus la pression sur ses joueurs.
Je pense pas qu'il ait aidé son équipe en disant ça.
Non.
C'est compliqué de faire autrement. Qu'est-ce qu'il peut dire? C'est un peu la méthode un peu couée, à savoir que il faut essayer de les piquer.
Tu peux piquer tes joueurs autrement aussi. Tu peux piquer en disant justement, ça va pas. Regardez Dortmund, ils sont juste tannés. Il faut montrer aussi ce qu'on vaut. Là, ça pique en les mettant dans un confort, en disant les gars, vous êtes au-dessus.
Et il met la pression sur les autres.
Si tu rentres sur le terrain en disant que t'es au-dessus de Dortmund, ce Dortmund-là, ils peuvent vraiment te rouler dessus.
Qu'il arrive dans ses propos,
on termine avec toi, Mamad.
Sa marge de manœuvre, elle est très, très, très étroite parce que là, ils sont un peu dans un goulot d'étranglement. On a parlé de cet effectif qu'il faut refaire, de cette fin de cycle, de lui-même ça, ne connaissant pas sa propre position par rapport à l'année prochaine. Finalement, il ne pouvait dire que pas grand-chose.
Ça finit mal le Bayern. Hein. Ils sont en roue libre et tout. Les joueurs qui jouent plus en sélection allemande, enfin, c'est
un peu compliqué.
Ouais.
La dernière partie de cette émission.
Time Sport, le mode pressing.
Et avant notre mode pressing, justement, peut-être une info à venir par notre président Kamel. On t'écoute, Kamel. Une info, je sais pas, tu me disais.
Ah, c'est sur Lyonnais qui avait dit justement le. Il avait dit que dans Sportbill qu'il n'a pas l'alternative et qu'il devait gagner. Donc moi je disais que le coach avait rebondi sur son info, sur ses propos. Voilà, et c'était pas très très courageux de sa part.
Pas faux. La promenade des Anglais, qui connaît ici.
Bien sûr, je apprécier cette plage pleine de galets.
On dépasse le périph' de temps en temps quand même, monsieur Nel.
C'est pas
On a tous, vous savez, les chaussures plastiques pour marcher sur les galets.
Ouais. Non mais sachez, petite anecdote, mais quand tu marches pieds nus sur les galets, c'est très bon parce que ça réveille tous les sens.
On appelle ça de la réflexologie.
Réflexologie, voilà.
Voilà un gars qui a connu toutes les plages du monde. Ah oui, c'est Mehdi, le grand voyageur.
Ah oui, le
transporteur. Mehdi Hadjadj.
Vous voyez pas, il a des tongs.
Je suis en tongs, forcément.
L'homme d'affaires britannique, justement, Jim Ratcliffe. Plus grosse fortune de Grande-Bretagne, avec ses 24,5 milliards d'euros, pourrait racheter l'OGC Nice, selon Nice Matin. Nos confrères de Nice Matin, pas si étonnant que ça, quand on connaît l'amour que porte l'homme le plus riche du Royaume-Uni à la France et à la Savoie en particulier, on atteste ce don de 17 millions d'euros quand même au club des sports de Courchevel. Celui dans lequel évolue Alexis Pinturo, une somme énorme qui aidera à financer la construction, écoutez bien, d'un grand bâtiment hyper moderne pour le club au pied du stade de slalom. Ce n'est pas tout, le mécène aussi devrait aussi aider l'organisation des championnats du monde de ski alpin en 2023, tout de même en France, toujours à Courchevel. Un mécène qui aime le sport, qui cultive la discrétion et la générosité. Messieurs, mesdames, est-ce que le tiercé des qualités gagnants qui pourra stabiliser et relancer justement le projet initié par l'ex-président Jean-Pierre Rivière, selon vous ?
Ouais. Moi, je trouve que c'est une aberration.
Kamel, parce ancien que président, oui.
Le club président de Time Sport. Moi, je trouve que c'est une aberration parce que ça a été racheté par le sino-américain. Et moi, je pense que le club de Nice, il a un stade tout neuf. Il a un centre d'entraînement et un centre de formation tout neuf. C'est l'un des plus beaux d'Europe. C'est un club qui a un public.
Lyon de Rivera.
Qui a un entraîneur qui va pour moi être l'un des meilleurs au monde, c'est Patrick Vieira, hein, parce qu'il commence à. Et même, il est beaucoup demandé. Mais je pense que le club, comment il est structuré avec les actifs, il vaut largement plus de 100 millions dans un premier temps. Hein, parce que comme on a vu combien a coûté Bordeaux et vu les résultats de Bordeaux, etc. Mais moi, je pense pas qu'ils vont se lancer. Ils viennent de le racheter maintenant. Il n'y a pas cette année. Je pense pas que voilà ils vont le vendre parce que c'est vraiment un actif important. Quand vous voyez le stade et aussi le centre de formation et centre d'entraînement, c'est magnifique. Mais donc c'est vrai que ce monsieur Radcliffe, il a Lausanne Sport. Il a racheté l'équipe de la Sky Sport de Chris Froome.
Et on connaît tout l'amour des Anglais de la Riviera, la French Riviera, et notamment de cette agglomération qui est Nice. Justement, ça ferait du bien peut-être à la Ligue 1 Conforama à Brest.
Ce serait exceptionnel.
Eh oui.
Exceptionnel. Quelques chiffres. 24 milliards.
Un club en face du Paris Saint-Germain.
T'as dit Bilal, t'as dit 24 milliards de fortune.
Ouais.
Juste incroyable. Pour info, Abramovic, c'est 12 milliards. Tu vois un peu le truc,
bien,
tu
bien,
tu vois
faire
un peu le truc, le mec, ce qu'il peut te faire.
Mais bon, et je sachant qu'il y a des financiers quand même, les amis.
Pardon ?
On peut pas trop. Ouais.
Oui, mais est-ce qu'il a dit qu'il investirait ? Est-ce qu'il a dit qu'il investirait autant ?
Un mec comme ça, il vient pas. Il va
pas
mettre des smicards.
Ça
veut rien dire. Je vais laisser tout le monde dire, mais quand on voit certaines fortunes françaises, parce qu'on ne va pas les chercher à l'étranger, les François Pinault, les.
Qui détient Rennes.
Mais oui, mais qu'est-ce qu'il met dans Rennes ? Alors, même qu'il ne mette pas sa fortune personnelle.
Il n'investit pas autant.
Même ne pas mettre sa fortune personnelle, je suis sûr qu'en son nom. En son nom, il peut attirer d'autres investisseurs. On ne lui a pas demandé de sortir de sa poche. Mais j'allais parler de Bernard Arnault, des gens, des capitaines d'industrie français qui peuvent aussi mettre et qui n'ont pas d'attrait pour le sport. Alors, je vais juste finir, parce que je vais laisser parler Brice, mais je vais laisser finir. Quand Kamel dit qu'il le voit peut-être d'un mauvais œil, mais moi je dis que dans le football actuel, aujourd'hui, si on veut aller sur la concurrence, alors que le projet niçois soit lancé, peut-être que les Niçois ne sont pas vendeurs. Lui, il se propose. Mais si les Niçois étaient vendeurs et qu'ils puissent prendre la suite, mais tant mieux.
il va venir injecter.
Même ce que j'ai dit, c'est que le sino-américain Lee vient de l'acheter, le club. Et c'est un club qui est magnifique, qui est, en termes d'infrastructure, en termes d'investissement. Il est, je ne vois pas son intérêt à lui de le vendre, c'est tout.
Il n'y a pas de fumée sans feu. Quand ces informations-là sont lâchées, qu'est-ce qui se passe au niveau des
sino-américains ? Concrètement, il y a eu interview quand même dans Nice Matin, et le mec dit j'ai l'intention de le faire. Oui. Il a fait une première proposition.
Mais il y a un refus, hein. Il a refusé.
Oui, bien sûr.
Il a refusé le propriétaire.
Il a fait une proposition de 90 millions qui avait été refusée. On sait que c'est un mec qui a déjà ici aussi essayé d'aller voir du côté de Chelsea. Ça a été refusé. On sait que c'est un mec qui a des velléités. Ça a un nom, ce truc-là. En fait, quand des milliardaires ne savent pas quoi faire et qu'ils veulent un truc à côté, ça s'appelle une danseuse. Le mec,
il a
24 milliards. Vous vous rendez compte? Le double d'Abramovic. Abramovic, vous avez vu ce qu'il a fait à Chelsea?
Oui.
Ce mec-là, il vient, il a la volonté. On sait qu'en plus, Nice est connu pour ça, plein d'anglais.
Pourquoi il l'a pas acheté avant?
Attends.
Pourquoi il l'a pas acheté avant?
Bah parce qu'il y a des refus. Plein d'anglais. Il y a plein d'anglais à Nice. Trois ils adorent avoir une retraite dorée. C'est un mec qui a envie de s'amuser. S'il va là-bas, c'est pas pour mettre trois cacahuètes et s'amuser. Moi, Nice, je vais te dire, juste, excuse-moi, je finis là-dessus, Kamel. Nice, tu disais oui, c'est super, club, centre de formation, c'est génial. Moi, je pense qu'il y a un gros problème. Il y a un problème de dimensionnement. On ne sait pas trop ce que veulent faire les Américains, qui sont d'ailleurs actionnaires à 80%. On ne sait pas ce qu'ils veulent faire. Il n'y a pas de dimension, il n'y a pas d'ambition.
Oui, mais...
Nice, à côté, c'est la Côte d'Azur, la French Riviera. Il y a les stars, il y a des Brad Pitt, d'Angelina Jolie.
Tu peux monter un projet exceptionnel.
La Ligue 1 prendrait son envol.
Ravi pour
Come on, Jim.
Arrêtons de donner des fausses informations et des fausses joies. Je pense que
je donne aucune fausse information. Kamel.
On laisse terminer.
Si je peux terminer, s'il te plaît, Brice. Moi, ce que je comprends pas. Après, faut être réaliste. Pourquoi il y a un an, le président Rivière, le club était en vente, il l'a pas acheté. Je comprends pas.
Il s'est pas positionné. Mais c'est un milliardaire. Mais il fait des affaires.
Mais peu importe, c'est un milliardaire. C'est le problème, c'est que c'est un milliardaire. Pour acheter, il faut qu'il y ait une vente. S'il n'y a pas de vente, il ne pourra jamais l'acheter.
Mais non, mais attends, tu dis pourquoi il n'a pas acheté. Alors, c'est un milliardaire, il fait d'autres affaires.
Il s'est réveillé trop tard.
Pourquoi les Qataris ne sont pas arrivés en 2005?
Il s'est réveillé trop tard.
Non, mais c'est pas un argument.
Non, mais c'est pas que c'est un argument, c'est qu'il s'est réveillé trop tard.
Oui, mais rien ne dit que les mecs finiront pas par céder. C'est possible que les mecs, dans un an ou deux.
Ah oui, dans un an ou deux.
Le problème, c'est que pour l'instant, le projet de Nice, je suis désolé. Il n'y a aucune dimension. Tu vas nulle part avec ça.
Si tu veux jouer l'Europa League une fois tous les cinq ans, ça ne sert à rien.
Brice, avant de t'exciter et de t'enthousiasmer, moi j'attends de voir le projet.
Il faut quand même.
Moi je m'enthousiasme sur les projets. Sur les projets, quand le projet est bon en due forme, il est écrit. Quand il dit j'investis 2 milliards d'euros, là d'accord, on s'excite.
Ouais.
Et voilà, s'il veut construire des maisons de retraite à Nice,
on suivra ça de près en tout cas.
Le projet, c'est mettre du pognon. C'est mettre du pognon. Et ne comparez pas, s'il vous plaît, avec ce qui se passe à Rennes, parce que là, c'est vraiment un mec.
C'est quelqu'un qui aime le sport.
Exactement.
On a démultiplié.
Ouais, Rennes quand même en finale, hein, on l'oublie pas aussi, de la Coupe de la Ligue face au Paris Saint-Germain. Le pronostic de ce samedi, Bayern contre le Borussia, rapidement.
2-0 pour le Borussia Dortmund à l'Allianz Arena.
Et Mehdi, ton prono?
Un partout
pour Mehdi. Brice?
2-1 pour Dortmund.
2-1 pour Dortmund. Et on termine avec toi, Kamel.
4-3 pour Dortmund.
Eh oui. Un grand merci à Yanis, à la réalisation, avec notre Hugo. Le pronostic de Hugo, le réalisateur. Allez, le Borussia, le Bayern contre le Borussia plutôt.
Moi, je dirais, allez, un 2-1.
Un 2-1. Ouh. Et vous faites comme...
Pour le Bayern.
Le Bayern de Munich pour Hugo, notre réalisateur. On se donne rendez-vous la semaine prochaine à partir de 18h. On sera lundi avec une nouvelle équipe de Time Sport. La suite des programmes sur l'antenne de Beurre. Et on n'oublie pas de follower et de suivre les pages de Beurre FM et aussi de Time Sport sur les réseaux sociaux. Un très bon week-end à toutes et à tous.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 18h à 19h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.